Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train.
Bonjour, c'est Marie et vous écoutez Beau Voyage. De l'ascension du Merapic au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus. Des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Nous avons rendez-vous avec Quentin dans son cabinet parisien. Quentin est sérieux, responsable. Quentin est un avocat d'affaires et le père de trois enfants. Mais Quentin ne passe pas ses vacances à faire des châteaux de sable. Il aime préparer son sac et se lancer des défis. Fan de montagne depuis sa plus tendre enfance, il a toujours aimé grimper sans être un pro. Et depuis quelques années, il tente des aventures toujours un peu plus folles. Il part un peu partout en France, en Norvège aussi, sans grande préparation, juste pour vivre sa passion. Pour nous, il revient sur l'un des plus beaux voyages de sa vie, l'ascension du Merapic au Népal. Quentin a lâché sa femme, ses enfants, ses clients et ses associés pour partir trois semaines et s'attaquer à l'une des ascensions les plus folles de l'Himalaya. Il nous raconte ses 21 jours sur la route, ses peurs, ses doutes, ses moments suspendus et ses rencontres improbables. Bref, ce fabuleux trek entre climat tropical et sommet enneigé. Bon Quentin, aujourd'hui tu es en costume cravate ou à peu près en costume cravate dans ton cabinet d'avocat. Mais en vrai, il paraît que tu pars au fond du Népal avec tes crampons. Et je te promets que tu nous racontes. Et je suis hyper fière parce que les aventuriers, ça me... Je suis hyper impressionnée par ça en fait. C'est pour ça que j'aurais mis la question pour toi. Donc, est-ce que déjà, quand tu étais un petit garçon, tu étais un aventurier ?
Alors, petit garçon, je ne sais pas si j'étais un aventurier, mais j'ai toujours aimé le voyage.
Tes parents, ils t'ont emmené en voyage ?
Ouais, beaucoup. Beaucoup, parce que c'était des professions libérales qui avaient du temps l'été et qui adoraient le voyage. Donc, on partait tout le temps. Mes frères étaient plus grands. Parfois, ils étaient avec nous, parfois non. Et on est allé un peu aux quatre coins du monde. Et on faisait aussi beaucoup de ski, puisqu'ils avaient un appart à la montagne. Donc, il y avait un mélange des deux. Ma mère est 100% ski. Elle avait fait beaucoup de pots de phoque. Maintenant, elle est trop âgée, elle ne fait plus rien. Mais elle avait fait énormément de pots de phoque. On avait un appart à Val d'Isère. On y allait à Noël, février, Pâques. On y allait l'été. On y allait 8 semaines par an.
C'était un méga bon skieur aussi.
Ouais, enfin, j'ai fait beaucoup de ski, beaucoup plus que mes enfants d'ailleurs aujourd'hui.
Dans ta semaine et tout, t'es sportif ?
Je vais beaucoup aux réunions à pied, je fais du vélo dans Paris. J'essaie de faire de l'escalade au moins deux fois par semaine.
Pourquoi l'alpiniste, tu dis, oui, t'aimes la montagne, mais c'est quand même extrême. Tu te mets en danger quand même.
Ouais, mais...
Ou t'as pas ce sentiment, toi ?
Si, on est dans un environnement dangereux. Après, moi, je choisis des ascensions où il y a le moins possible de risques objectifs. Le risque objectif, c'est des couloirs de chute de pierre connus. Donc, tu passes pas par là. Il y en a un qui passe en se disant, bon, ça passe ou pas. Moi, je préfère éviter. Le risque objectif, c'est des gros couloirs d'avalanche. Moi, j'essaie de partir avec des guides expérimentés. Il y en a un notamment qui est professeur à l'ENSA, qui a beaucoup de bouteilles. Pour moi, c'est un gage de sécurité aussi. Donc, je fais pas ça n'importe comment. On évolue évidemment dans un environnement dangereux qui peut nous surprendre quand
bien
même.
Mais tu te mets pas en danger, quoi.
Ouais, non, je me mets pas en danger. Et quand bien même on aura mis tous les éléments de sécurité de notre côté, il peut arriver. manque de bol, tu sois même dans une pente à 30 degrés sur un truc qui t'embarque, comme partout. Et tu te mets un peu plus en danger que n'importe qui. Mais je... Et encore, souvent je me fais la réflexion, c'est est-ce qu'on se met pas plus en danger à rester devant une télé à bouffer des chips? Non mais clairement, enfin tu
es
déjà en danger parce que ta santé mentale elle tourne en rond, t'as besoin de faire quelque chose et à mon avis tu passes complètement à côté de ta vie. Donc, mais je vais pas chercher des trucs où je vais pendouiller sur des arêtes extrêmement difficiles.
D'accord. Et tu t'es déjà fait peur ?
Pas vraiment, pas vraiment. Le plus dangereux objectivement que j'ai fait, je pense, c'est le Cervin, l'ascension du Cervin en Suisse. À Zermatt, parce que c'est une montagne dangereuse, il y a de la caillasse partout, mais c'est dangereux parce que tu peux te péter la gueule à la descente ou des choses comme ça. C'est du danger.
C'est pur alpiniste. Quand tu dis t'as monté de ça, c'est tu montes et tu redescends à pied.
C'est ce qu'on appelle du mixte, si je dis pas de conneries, parce que je suis pas non plus. Tu pars, t'as un peu d'escalade et t'as marche, escalade et crampons à la fin.
D'accord.
Au sommet, parce qu'il y a un peu de neige et de glace, donc tu chausses les crampons et tu es encordé, tu as quelques parties à grimper en mettant les mains, avec des cordes fixes, parce que c'est quand même des voies super empruntées. Tu les utilises ou tu les utilises pas.
Donc tu pars avec des groupes.
Ouais.
C'est quoi le premier contact avec ce groupe ?
Le tout premier contact avec ce groupe, c'est un parent de l'école, un père à l'école, qui m'a dit « Tiens, il y a le truc des avocats, parce qu'on reçoit une newsletter d'un mec qui a monté une centrale d'achat pour les avocats, qui s'appelle Préférencia, qui est passionné de montagne et qui, pour les avocats, organise des voyages ski. » Et moi, je m'étais
dit... Donc, pour les avocats ?
Alors, non, en réalité. Enfin, c'est vendu quasiment qu'à des avocats, mais il a agrégé tout un tas d'autres personnes et d'autres professions à côté. C'est hyper ouvert, en réalité. Donc, il y avait des avocats, mais il y a aussi des médecins.
Des mecs ?
Non, il y a quelques femmes. Il y en a moins, clairement, mais il y a une pédiatre... Là, au Népal, il y avait une femme chirurgien du rachis, professeur en plus, avec un autre professeur qu'elle connaît bien et avec qui elle travaille.
Et alors justement, ça s'organise comment, l'ascension du Merapic ?
Alain, là, le gars dont je parlais qui organise ça, a envoyé un mail en disant on ferait bien l'ascension d'un sommet à 6004 au Népal en
6004.
2000,
j'avais pas bien bossé mes fiches.
6476, pour être précis. Alors, c'est pas encore 7000, mais c'est déjà assez haut.
Oui, donc vous vous dites ensemble, on se lance un défi.
Ouais, enfin, on a envie d'aller là-bas. Il y en avait beaucoup qui avaient déjà fait le camp de base de l'Everest 2 ans ou 3 ans avec le Covid, je sais plus, juste avant le Covid. Camp de base de l'Everest à 5004. Ceux qui étaient dans la cordée, là, au Merapic, il y en avait les deux tiers qui avaient fait le camp de base, qui connaissaient déjà un petit peu la région, le coin.
Et... Toi, t'étais déjà allé ?
Non, jamais. Première fois. Vraiment toute première fois. Et c'est un peu, le Graal des alpinistes, l'Himalaya, quoi.
C'est
ne serait-ce même que de voir la chaîne, quoi. C'est vraiment sympa. Et donc, quand il y a eu ça, je me suis dit, ça peut s'organiser. Ces 3 semaines, c'est long, mais c'est pas impossible. Les conditions dans lesquelles on fait ça, c'est avec des gens que je connais en partie. Dans la cordée, je sais plus, on était 7. Il y en avait peut-être 2 que je connaissais pas. Et c'est tout.
T'es en confiance, quoi.
Ouais, total. Total. Et puis, c'était pas un budget monumental. Enfin, c'était le bon moment de le faire, quoi. Et je savais qu'il y aurait pas 10 000 opportunités de faire ça.
Où en avion quand tu vas grimper ? À Katmandou.
Ouais, Katmandou. Et après, à Katmandou. Alors, nous, on était censé passer une journée de repos après le voyage à Katmandou.
Katmandou, excuse-moi, t'es à combien d'altitude ?
1004, je crois.
D'accord, donc ça, c'est OK pour nous, petits Européens.
Ouais, bien sûr. C'est peut-être un peu plus bas, même. Je ne sais plus exactement. Enfin, c'est pas.
Donc, t'arrives à Katmandou.
Comme une station de ski, quoi.
D'accord. Ouais.
Katmandou, qui est une énorme ville, très indienne, magnifique, incroyable. Alors, le premier jour, on ne l'a pas vu, parce qu'on devait se poser un jour, mais finalement, on a dû avancer l'autre avion. C'est-à-dire qu'on a fait Paris-Doha, Doha-Katmandou, une douzaine d'heures d'avion. On est arrivé vers 23h et à 4h du mat, on reprenait un avion pour partir vers le départ en fait de notre rando.
Et là, c'est quel aéroport ?
On est parti de Katmandou vers Paflou.
Paflou.
Ouais, Paflou. Et on a rejoint la vallée de Linkou, qui est une vallée assez sauvage. Alors, t'atterris à flanc de montagne, c'est hyper chouette.
Déjà, j'ai peur. Déjà, tu me dis le nom de l'aéroport, j'ai pas envie de monter dans l'avion.
J'ai des vidéos, mais tu montes dans un coucou, ça sent le gasoil. D'ailleurs, il y a 3 semaines après que je sois passé, il y a un avion de Yeti Airlines, qui est une compagnie assez drôle en nom, mais qui s'est crashé malheureusement. Mais c'est...
T'es déjà dans l'expédition quand même.
Ça, c'est du danger objectif. Et ce qui me faisait plus flipper là-dessus, c'était l'avion, éventuellement les transports sur place.
Ouais. Que l'ascension.
Ouais, beaucoup plus.
Je comprends.
Beaucoup plus. Et évidemment, il y a eu, mais ça, tu regardes pas trop quand tu pars, mais il y avait eu le tremblement de terre assez puissant en 2015 au Népal. Ouais. Et ça, ça peut te foutre en l'air une ville.
Bien sûr.
Mais bon, si tu réfléchis
à tout,
tu pars
plus.
Non,
mais t'as raison.
Voilà.
Bien évidemment. Donc là, t'arrives dans la vallée. Nous dit.
T'arrives dans la vallée, on dort dans un lodge, on était un peu cramé parce que on a dû avancer.
Enchaîné, quoi.
Le gouvernement, je sais plus, avait fermé l'espace aérien le jour où on devait partir. Enfin, voilà, donc on s'est démerdé pour avancer. Donc on arrive, on dort dans un lodge, on visite un peu les villages alentours, puis là tu démarres, donc tu pars vers 1000 mètres. À peu près, progressivement.
Et là, t'as dormi une nuit quand même dans un lit, tu t'es pris une bonne douche, enfin, t'étais en bonne condition, quoi.
Ouais. Alors, les douches, c'est un peu spartiate, les lits, ouais, c'est des planches en bois, dans des trucs. Il fait pas encore froid à cette altitude, donc tout va bien. Tu pulvérises quand même de l'anti-puce ou des conneries avant de en te disant que tu. Pas tellement pour toi, parce que je m'en fous, en fait, dans l'absolu, mais c'est pour pas le ramener à Paris.
Bien sûr.
Mais c'est des lodges où ils font vraiment bien les choses, c'est vraiment hyper chouette. Et donc, chaque soir, en fait, on dormait dans un lodge.
D'accord.
Et quasiment chaque midi, on déjeunait dans un lodge. Donc, c'était pas non plus...
C'était pas avec ta petite gamelle dans le froid
Non. Toute l'ascension, elle se fait quand même dans un certain confort. Chaque jour, on marchait entre 5 et 7 heures.
OK.
Avec une pause à midi dans un resto un peu sympa.
Et là, tu montes. Chaque jour, tu prends de l'altitude.
Tu prends de l'altitude chaque jour. Parfois, tu redescends parce que la vallée, c'est une vallée, quoi. Donc, par moment, tu montes à 3000, tu redescends à 2005. Tu remontes à nouveau, tu croises des Népalais qui ont 4 et 6 ans, ils sont tout seuls dans la montagne, et ça fait une heure et demie qu'ils marchent pour aller à l'école. Bon, donc toi, tu
relativises 2-3 trucs.
Arrêter de me plaindre 2 minutes.
C'est clair.
Et eux, ils gambadent, ils sont tout seuls. 4 ans, avec le grand frère, tout seul, et ils se démerdent.
T'es déjà dans la neige, là, quand tu marches ?
Non, pas du tout. T'es dans une ambiance extrêmement tropicale, t'es en short, il fait chaud, t'as de la verdure partout, t'as l'impression que Rambo va surgir, tu sais, de la boue. Là,
c'est dingue. Et t'as pas d'animaux ?
Il y a des yaks.
T'as pas d'animaux dangereux, quoi ?
Non. Il y a des paons qui se baladent, des yaks, il y a quelques oiseaux sympas. Non, t'es vraiment dans une végétation très luxuriante. Cette vallée de Linku, qui est à l'opposé en fait, de celle du Khumbu, où tout le monde va pour faire le camp de base de l'Everest, qui est extrêmement touristique. Linku est super, tu croises quasiment personne, en fait. Moi, j'adore, parce que t'es vraiment...
C'est justement ce que j'allais te demander, parce qu'on a tous vu ces photos de l'embouteillage de l'Everest hallucinante, tu sais, où tout le monde attend comme ça. Si toi, t'avais eu ça au Merapi, plus sauvage.
Non, c'était beaucoup plus sauvage, les cordées étaient plus espacées, et il n'y en a pas tant que ça, en réalité, sur ce sommet-là. Il y a un moment donné où on se rejoint avec un peu plus de monde, parce qu'il y a deux vallées qui se retrouvent. Mais toute cette partie pendant 10 jours de Linku, un peu dans la végétation luxuriante, quand je dis tropical, on se faisait bouffer par les sangsues quand il pleuvait. Donc tu as des sangsues qui se collent dans tes chaussettes. Je ne sais pas
par
quel miracle,
d'ailleurs. Alors que dans ton sac, tu as des affaires de grand froid.
T'as les deux, en fait, dans ta valise. Typiquement, t'as les deux, puis tu prends, même si t'as des porteurs, qui eux aussi sont incroyables, parce qu'ils montent en tongs, ils sont déjà arrivés en haut, qui redescendent te voir.
Ils portent sur leur dos, ils sont des animaux.
Ils portent sur le dos 70 kilos, 70. Ils portent deux sacs de valises, pas des sacs à dos, c'est les valises.
Tes affaires, quoi.
Tes affaires, deux, et plus leur petit sac à dos pour eux. Et ils sont en bottes en caoutchouc, en tongs, parfois pieds nus, enfin c'est...
Et t'arrives à discuter avec eux, t'as des conversations avec eux.
T'as des conversations. Ils parlent pas forcément bien anglais, mais ce qu'on a pas mal fait, on a beaucoup joué dans les lodges au dé ou tu vois, on a fait des jeux de cartes, des machins avec eux. C'était plutôt sympa.
Tu partages des super moments avec eux.
Carrément. Et il y a pas, moi ça me gênait un peu, si tu veux, ça gêne toujours de pas porter ses propres affaires ou autre. Mais alors ceux qui avaient déjà fait le périple, évidemment, ils ont pris des sacs beaucoup plus gros que moi, sachant qu'ils allaient.
Vous n'allez pas les porter.
Non, exactement. Ce qui est pas très cool dans la. Absolu, mais voilà, ils sont évidemment restés dans la limite du raisonnable. Mais ça fait partie de leur truc. C'est des étudiants, en réalité, qui font un job d'été.
Ah,
c'est un job d'été hyper bien payé pour eux. Ils sont très contents de faire ça. Certains sont des aspirants guides Sherpa, ceux qui sont de l'ethnie des Sherpas, très clairement, parce que c'est très ethnique. C'est comme l'Inde, il y a des castes. Donc les Sherpas, c'est un peu le top de top. C'est eux qui peuvent devenir guides. Et il y a des porteurs pas Sherpas qui, eux, sont un peu mis de côté. Quoi.
D'accord.
Pour autant, ils étaient très clairement dans la cordée.
Et ton guide, il parlait anglais ?
Notre guide parlait un peu anglais, ouais. Le guide qui a fait trois fois l'Everest, qui a fait des 8000 un peu partout, il revenait d'un 7000 avant, enfin c'est des surhommes ces gars-là, c'est vraiment c'est des surhommes.
Et t'as quelqu'un qui s'occupe de la pharmacie, un médecin, si quelqu'un a un souci et tout?
Moi j'ai eu la chance de partir avec deux chirurgiens professeurs, et donc ils avaient une super pharmacie.
Mais si t'as pas des médecins dans ton équipe d'expédition, il y a une option ou qu'est-ce qui se passe si tu te sens pas bien?
Je sais pas si les Sherpas locaux avaient ce qu'il fallait. Nous, on est partis par sécurité et puis par amitié aussi avec notre guide habituel français.
D'accord.
Ça nous remet en confiance, ça crée de la sécurité. Puis c'est sympa, on est tout le temps avec lui en France, donc on organise ses voyages avec lui. Et lui, lui-même a des formations de secourisme, de choses comme
ouais,
ça. Donc,
okay.
On avait notre propre trousse avec les médicaments classiques que tu peux avoir. Et évidemment, les chirurgiens avaient un truc un peu plus costaud qui a été utilisé, mais pas pour nous. Parce qu'on montait et il y avait dans la cordée, enfin dans d'autres cordées, il y avait un autre gars seul avec un Sherpa. Il avait 35 ans, c'était un mec qui faisait du M&A, un Hollandais. Comme quoi, hein, même les mecs font du M&A, les banquiers, ils se prennent 3-4 semaines pour faire ça, sans problème. Et donc on avait sympathisé avec lui, on le voyait un soir sur deux, il n'était pas toujours dans les mêmes lodges, mais on le voyait assez souvent. Et à un moment donné, il s'est loupé avec son bâton sur un petit pont en rondin de bois. Au-dessus d'une rivière, il s'est explosé la tronche dans la rivière et il s'est déchaussé une dent. Il s'est ouvert complètement le nez, machin. Et
il
nous
rien.
A attendu. Il savait qu'il y avait des chirurgiens avec nous. Donc, il s'est posé dans un village et il a appelé les chirurgiens qui l'ont recousu sans anesthésie. et le gars est parti à Katmandou se faire remettre sa dent. On s'est dit, le pauvre, il avait mis toute son énergie pour faire le sommet. Et à un moment donné, à 5000 mètres, 4 jours plus tard, il a dit, salut les gars, il est remonté. Il est remonté, il a fait le sommet, le mec. Il est allé jusqu'au bout, il s'est fait remettre sa dent. Il dit, oui, ça fait un peu mal, mais ça va.
Et justement, les guides entre eux, ils ont des CB, des radios, des téléphones. Comment ils communiquent?
Alors, notre guide avait un téléphone satellite qu'on n'a jamais utilisé, mais s'il y a un vrai pépin, tu as un téléphone satellite.
D'accord. Si vraiment il y a quelqu'un qui fait un malaise ou vous tombez de ça, il peut appeler le camp de base ou quelqu'un.
Parmi les éléments importants de sécurité, on a demandé à avoir un caisson hyperbare.
Ouais.
Le caisson hyperbare, c'est une sorte de gros sac de couchage en toile cirée hyper épaisse. Et quand tu es en mal des montagnes, y a un problème de pression parce que tu es trop haut. Et si tu ne peux pas redescendre physiquement, seul ou accompagné, on te met dans ce caisson hyperbare. Donc on te met en gros dans un sac. On ferme. Alors on avait fait l'essai du sac pour voir s'il marchait. Personne s'est mis dedans, hein, parce que le machin, t'es complètement enfermé dans quelque chose où il n'y a pas d'air. Le temps que les camarades gonflent le truc, parce que ça se gonfle au pied, on préférait pas l'utiliser. Mais parfois, c'est très nécessaire. Et on l'avait avec nous, et les gars le portaient. Ouais.
Et ton téléphone portable, tu l'avais avec toi?
Oui. Alors moi, j'avais mon téléphone portable avec moi, essentiellement pour les photos.
Et tu pouvais faire des FaceTime avec tes enfants?
Ouais, carrément.
T'as assez de réseau pour leur montrer où t'es et papoter avec eux, quoi.
Oui. Très clairement, les lodges arrivent à capter jusqu'au pied du sommet, donc jusqu'à 4008. Même au refuge à 5000, il y avait un peu de réseau.
Et combien de temps tu mets alors à arriver à 4008?
Tu mets 10-12 jours. 10-11 jours.
Donc au bout de 12 jours, t'arrives au pied.
T'arrives au dernier lodge, à 5000. Avant ça, t'en fais un premier à 4000 globalement. Tu restes un jour ou deux sans rien faire pour développer des globules rouges. Parce que les globules rouges véhiculent l'oxygène plus. Et quand t'es en montagne, tu crées plus de globules rouges, ce qui permet à l'oxygène
de plus véhiculer.
Donc
tu vas te faire ton petit stock avant de gravir le grand sommet, quoi.
Éventuellement, tu fais une petite ascension un peu plus haut et tu redescends. L'idée, c'est toujours d'aller plus haut et de dormir plus bas pour s'acclimater et éviter au mieux le mal des montagnes. Tout le monde l'a plus ou moins eu.
Et vous aviez pris des médicaments?
Alors, il y a ce fameux médicament qui s'appelle le Diamox.
Qui est diurétique.
Pour l'altitude, exactement. Moi, je suis pas très médicament. Donc, j'en avais pas pris, en tout cas, en prévention. Et quand j'étais dans la tente mal, à 5007, donc la dernière étape avant le sommet...
Mais comment mal? Tu peux nous dire ce que tu ressens quand t'as ça?
Ouais, je suis arrivé, on a fait l'ascension donc, du dernier lodge à 5000. Après ces 2 jours de repos à 4000, on a dormi à 5000, à nouveau 2 jours. On a laissé passer une journée parce qu'il y a trop de vent au sommet.
D'accord. Oui, tu es aussi très dépendant de la météo quand même.
Ouais, donc on avait prévu un jour de réserve et on en avait gagné un grâce au vol à Katmandou avancé. Donc on avait 2 jours de réserve, mais finalement on n'en a pris qu'un. Voilà, on se pose et ça y est, là on démarre, on se dit le sommet c'est pour après-demain. Donc on monte au camp, au High Camp, à 5007. Là c'est un bivouac. En tente.
Et à 5000... les tentes, elles sont déjà installées ?
Ouais, elles sont déjà installées.
C'est pas toi qui viens avec ta tente, en fait.
Non,
c'est un camp de tente.
Tes Sherpas et porteurs ont des tentes qui viennent éventuellement installer, mais c'est un camp de tente. Je sais pas s'ils les louent, s'ils les ont préinstallés, s'ils les désinstallent. Je pense qu'ils les laissent, en réalité. Ouais. Et que tu les occupes, ouais, très clairement. Après, tu peux venir avec ton propre truc, par tes propres moyens, mais quasiment personne ne fait ça. Il y a déjà toute l'intendance qui est là. Et il y a une grande tente qui est posée avec une sorte de moteur, comment on appelle ça, un compresseur à gasoil où gars fait un peu de bouffe, etc.
Là, il fait froid. Excuse-moi, là, il fait froid.
Alors, non. Non, parce qu'il faisait très beau. Et donc, on est monté de là où je faisais les cafés vers ce High Camp à 5007. C'est 4 heures à peu près sur du glacier en crampons. Soleil de plomb. Mais de plomb était dégagé. Donc, t'es déjà à 5000. T'as que de la neige sur du glacier, donc t'as de la réverbe, donc on est couvert comme des Chinois.
D'accord.
Moi, je fais un peu gaffe au soleil, mais là, vraiment, t'as casquette, t'as le truc
caché,
sur le visage,
quoi.
T'es caché, ouais. Parce que t'as de la réverbe en permanence, donc t'es sans cesse exposé. Et je pense, alors moi, il y a eu un mélange de mal des montagnes et d'insolation, en réalité. Donc il faisait assez chaud, tu montes plus en t-shirt, quoi, globalement. Et arrivé là-haut, je me pose, je m'assois, impossible de me relever. J'ai plus de jus. Terminé.
T'es en pont, quoi.
Terminé. Je sais pas pourquoi. Peut-être insolation ou autre. Pas envie de manger. Les gars, j'ai limite rampé pour aller dans la tente. Parce que je m'étais assis ailleurs. J'ai impossible d'enlever un lacet, quoi que ce soit. Je suis resté habillé. J'ai gardé mon baudrier. J'avais les mousquetons partout. Je me suis allongé dans la tente. Dès l'arrivée, donc vers 15-16 heures, quoi. Et sur le médicament, bon, moi je suis pas très médicament, mais à un moment donné, le guide français vient me voir et il me dit écoute, prends un truc, parce que tu risques de louper le sommet.
Le lendemain, vous étiez censé faire le sommet.
À 1h du mat, on devait partir pour le sommet. Et pour moi, c'était un peu cuit, quoi, en fait, à ce moment-là.
Tu le sens ? Toi, tu te sens comment ? Dans ta tête, tu te dis quoi ?
Bah, dans ma tête, je me dis si je suis comme ça, je monte pas, parce que c'est déjà physiquement dit pas possible. Et ça serait même dangereux, en fait, de pousser le truc. Même si t'as toujours envie de pousser, tu vois, t'as toujours envie de te dire, putain, je suis pas venu pour rien, mais il faut savoir être super. Je sais pas si je l'aurais été, en réalité, hein, je vais être hyper franc. Peut-être à un moment donné, tu peux perdre la lucidité et te dire, je vais pousser le truc. Mais physiquement, je pouvais pas. Déjà. Bon. Donc, il me dit, ouais, prends un Diamox. Bah, je dis, ouais, c'est pas mon truc. Ouais, dis, ouais, mais ça peut
te sauver le sommet. Ça a l'air bien quand même.
Oui, et puis ça peut te sauver le sommet. Donc bon, je prends le truc. Donc je suis dans cette tente. Il faisait très beau. Tu dors en face de l'Everest. C'est magnifique. C'est vraiment c'est super. J'en ai pas trop profité, mais quand même, j'ai eu ma dose, j'ai eu ce qu'il fallait. Puis le lendemain, j'ai tout revu et on repasse ensuite. Donc dans la tente, je suis resté scotché, habillé.
Tu prends ton Diamox ?
Ouais, c'est tout ce que je fais. Alors, on a partagé une tente à 3 qui était une tente pour 2, donc c'était pas hyper confortable. Puis on avait un camarade qui était stress, donc il bougeait tout le temps.
Mais tu dors pas très bien en plus, non, à 5000 mètres d'altitude ?
Non, tu dors pas super. J'avais bien dormi avant, en fait. Globalement, j'avais réussi à bien dormir. Mais oui, passer 3005, c'est plus difficile de bien dormir. Ça dépend, enfin, c'est hyper aléatoire, mais en effet. En effet. Là, alors, j'ai clairement pas dormi. À un moment donné, j'avais une horrible envie de pisser, parce que t'es quand même dans des trucs basiques. Hein. Horrible envie de pisser. Je me dis, bon, 1h du mat, je vais attendre. Il faisait nuit. Je sais pas quelle heure il est. Je pouvais pas lever mon bras pour regarder ma montre.
Oui, c'est ça. Toi, tu pouvais pas bouger,
quoi. Non, j'étais emmitouflé dans mon truc. C'était un effort que je pouvais faire, mais si je pouvais l'éviter, je l'évitais. Donc, je l'ai donc évité en me disant, il fait nuit, ça devrait pas tarder, je me lèverai, j'irai pisser quand les Sherpas viennent me chercher, si je suis apte à partir.
Mais ça, tu sais toujours pas si tu vas bien, quoi.
Toujours pas, mais j'ai pas envie de me lever, tu vois. Alors, il faut sortir du truc, il faut se rhabiller un tout petit peu, parce que j'avais réussi à un moment donné à enlever quelques couches pour pas avoir trop chaud, parce que dans les duvets et dans les tentes, même s'il fait nuit et en dessous de zéro, t'es quand même très bien. Il n'y avait pas de vent, il y avait des conditions exceptionnelles, il y avait une voie lactée complètement ouverte.
Ça peut arriver que t'ailles jusque-là et que de toute façon, tu puisses pas monter parce qu'il fait pas beau.
Ah ouais, bien sûr. Il fait pas beau, ou alors il fait très beau, mais il y a trop de vent. C'est ce qui nous a pendu au nez pendant plusieurs jours. Il y avait quand même beaucoup de vent à la fin, et quand t'as 40-50 km/h sur des crêtes, déjà tu tiens pas bien, c'est dangereux. Et surtout, tu as très froid parce que tu te prends en ressenti, tu perds 10, 15 degrés en fonction de la force du vent.
D'accord.
Et je crois qu'il y a des tables hein, de statistiques ou mathématiques qui te disent que 30, 35 km de vent, c'est direct moins 15 en ressenti. Et
donc tu as aussi cette histoire de fenêtre de tir, quoi.
Ouais, clairement. C'est pour ça qu'il y a des embouteillages à l'Everest.
Ouais. Ah parce oui, que c'est, les, que c'est les... le moment où on peut y aller, tout le monde fonce, quoi.
Il y a trois jours de météo bonne à 8000 et quelques. Je suis pas un grand spécialiste du truc, mais c'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, tout le monde se retrouve à faire la queue, parce que sur une année, t'as 3-4 jours comme ça pour pouvoir grimper, quoi.
Tu sais combien de personnes arrivent en haut de l'Everest par an ?
300, je crois.
Ah, enfin, c'est tout ?
Ouais, je dis peut-être des bêtises, mais
c'est pas énorme.
J'ai en tête 300, ouais. Ouais, ouais.
D'accord.
Je suis pas le roi des chiffres. Je les lis, je l'ai déjà lu. C'est un ordre d'idée qui doit être à peu près correct, mais je retiens jamais bien les chiffres.
Donc toi, t'es dans ton sac de couchage, t'as rien à faire pipi.
Me dis, j'attends parce que c'est trop crevant, c'est trop d'énergie. Tu gardes ton énergie, tu vois.
Et t'as pas dîné quand même, t'as pas mangé, toi.
Que dalle, non. Je pouvais rien avaler, rien du tout.
On mange quoi d'ailleurs dans ces camps, tu nous as pas dit ?
Du riz et des sortes de nouilles lyophilisées, ouais. Avec de l'eau, quoi.
Vous étiez venu, vous, avec un peu des barres ou des trucs comme ça ?
Oui, alors dans ton sac à dos, t'as de l'eau, ça c'est le plus important, et des barres. Les barres, moi j'évite, ça donne vachement soif. Je préfère prendre des noix de cajou,
d'accord,
des graines.
Mais ça, t'avais pris des trucs de
j'ai
France.
J'ai toujours ça dans mon sac,
de France,
ouais. Ouais, très clairement, je suis parti avec. Pas d'amandes aussi, pour le coup, ça sèche un peu la bouche, mais ça va. Et à un moment donné, je regarde ma montre, parce que je pensais qu'il était 23h, et il était genre 19h30, 20h. Donc je dis, putain, je suis obligé de me lever. Je rassemble toute l'énergie, hyper crevant. Mais alors tu sors, la Voie lactée complètement claire, la lune éclairée, c'était pas la pleine lune, mais elle éclairait l'Everest, enfin c'est dingue, quoi. Donc, on t'est content de te lever, en fait, au final.
Et là, tout le monde dort à 19h30 dans le camp ?
Ouais, quasiment. Enfin, d'accord, les gens se reposent. Je sais pas s'ils dorment,
ils sont dans leur tente.
Dans leur tente, ouais. Et ils maximisent tout pour le
lendemain,
pour le sommet, quoi, pour le lendemain. Et donc j'arrive à m'extirper du truc, à sortir.
Spectacle.
Ça allait
incroyable.
Un peu mieux, parce que j'arrive à tenir debout, ouais. Et à faire un aller-retour. Le plus dur étant de mettre ses chaussures. Alors, j'ai pas fait mes lacets, ce qui était un peu con, parce que t'as de la glace partout. Tu peux te péter la gueule. Bon. Bref, mais à un moment donné, tu.
Les tentes, elles sont posées sur la glace ?
C'est du rocher, de la neige, de la glace, ouais.
D'accord.
Ouais, ouais. D'ailleurs, nous, notre tente, elle était un peu en pente, donc on descendait tout le temps.
C'est bien à trois.
Ouais, c'était pas hyper. Il y avait des tentes un peu sans doute mieux placées. Voilà. Mais il y avait une tente où un pouvait dormir tout seul. Mais on
d'accord.
s'est dit, s'il a une merde, un truc.
Oui, t'as pas envie d'être tout seul quand même.
Non, on préférait se regrouper, c'est quand même un peu mieux. Même si je pense sincèrement, il n'y aurait pas eu. Mais on a écouté les consignes, on a fait le truc. On s'est dit, on laisse pas un mec tout seul s'il est mal en point.
Mais surtout,
pas.
Ce que tu dis, c'est que quand t'es mal, t'arrives même pas à sortir de ton sac de couchage. Donc tu peux même pas prévenir tes copains.
Oui, moi j'étais content d'avoir quelqu'un à côté.
Ouais.
Donc je réussis, donc je reprends un peu de force, mais quand même je suis pas encore bien, je me dis c'est un peu mort pour le sommet. Et puis à un moment donné, 1h du mat, le mec vient nous voir, je me lève, et pareil, je suis désolé, c'est basique, mais je gerbe mes tripes, vraiment.
Par terre.
Ouais, enfin sur la tente d'à côté en réveillant tout le monde. Et là, libéré de tout le poids que j'avais qui me tenait
bloquait,
par terre,
quoi.
Qui me bloquait, qui était lié à l'altitude, à l'insolation ou autre. Et tout de suite, ça va mieux. J'ai mangé un petit morceau.
Ton voisin de tente aussi, il est vraiment content.
Le Sherpa, il dit, attention, hein, si t'es pas bien ou machin, il faut pas monter. Je lui dis, écoute, là, ça va. Bon, là, ça va, on tente. Et puis
tu manges un truc quand même.
Ouais, j'ai grignoté un peu de riz dans une odeur de gasoil épouvantable. Enfin, moi, tous ces trucs m'amusent, c'est bizarre. Hein. C'est la difficulté, les trucs.
Ouais, mais c'est ça qui te tient, quoi.
Ouais, c'est ça qui... Enfin, plus c'est dur, plus j'aime, en fait, très clairement. Et voilà, on est parti. On est parti à 1h du mat.
Donc là, il fait nuit.
Il fait nuit, nuit noire.
Tout le monde a sa frontale.
Frontale, tu pars en crampon. Moi, j'avais rien avalé, j'étais mal en point. Mais tu trouves l'énergie d'aller au sommet, quoi. Et objectivement, ça allait bien. Je savais que j'étais pas en risque à prendre le démarrage là-dessus, quoi.
T'as combien de temps là à l'ascension ?
Alors ça dépend de tout le monde. On avait une cordée un peu lente, donc on a mis à peu près 6 heures, je pense quand même, pour arriver au sommet, de 5700 à 6700.
D'accord.
À 6400, pardon. C'est là que tu te rends compte que la raréfaction de l'oxygène. Enfin, il y a autant d'oxygène, mais c'est des questions de pression atmosphérique et autres.
Ah là, à
et
chaque
donc,
fois que tu montes,
captes
tu le sens,
moins
tu dis...
ton organisme. Voilà. En fait, tu te rends pas compte que t'es diminué. tu marches comme tu marches d'habitude, tu avances comme toujours, en mettant un crampon après l'autre, en te posant la question comme tout alpiniste, j'en suis persuadé, en me disant mais qu'est-ce que je fous là, je suis vraiment un connard, il fait froid, fait nuit, mais il faut être débile.
Je le fais quoi.
Et puis à chaque fois tu reprends le ressort en disant bon c'est quand même très beau, voilà, mais il y a forcément.
Et là tu vois le soleil se lever et tout.
À la fin, ouais, carrément.
Donc et... tu montes, tu dis tu mets 6 heures à monter. Et tu parles avec tes
oui.
coéquipiers.
Non, je disais la diminution, tu la sens pas.
Ah oui, ouais. Mais tu, est-ce que toi tu parles pendant la montée, vous parlez pas?
Non, ouais. Franchement.
Tu peux pas.
Bah déjà tu vois pas les autres derrière parce que chaque mouvement est quand même.
D'accord.
Tu t'en rends compte.
Oui, c'est ça, tu t'en rends compte petit à petit.
Et assez pénible. Et pour te donner un ordre d'idée, quand tu marches normalement, un ordre d'idée, encore une fois, c'est des chiffres, donc je dis peut-être des petites conneries, mais on est capable, je pense, de marcher normalement, n'importe qui, en montagne, 300, 400 mètres heure.
D'accord.
En dénivelé.
Okay.
En marche, ou même marcher avec des crampons, 300, je dirais, c'est le truc. Là, je crois qu'on faisait à peine 100 mètres heure.
Ah oui.
Et t'as pas l'impression, si tu veux, d'aller moins vite que d'habitude, mais tu vas en fait trois fois moins vite. Parce que t'es totalement diminué et t'es plus en capacité. Tout est lent. Et il fait extrêmement froid, parce qu'il fait nuit. Il n'y a pas de soleil, il n'y a aucun point de chauffe.
Donc, et là, t'es habillé comment alors ?
Là, j'avais un pantalon de ski avec un collant en dessous, des chaussures d'alpinisme hivernal, les crampons bien évidemment, et tu as le système trois couches quand tu fais de l'alpinisme. T'as une première couche en laine mérinos, t'as une polaire par-dessus, tu as un coupe-vent, même plutôt quatre couches.
Ouais.
Tu peux avoir une doudoune un peu qui vient...
Au-dessus du coupe-vent, quoi.
En dessous, plutôt en dessous. Donc c'est troisième couche, quatrième couche, le coupe-vent. Et là, il y avait carrément une cinquième couche, il y avait la doudoune d'expé.
Donc tu marches quand même aussi avec un bon truc sur le dos, quoi.
Ah ouais, bah t'as le baudrier, t'es encordé parce que t'es sur un glacier. Donc faut que la cordée s'accorde un peu avec des gens qui sont fatigués, énervés. Il y a eu des moments où t'en as un qui disait « Ah, bah, arrêtez-vous !» J'ai dit « Non, on s'arrête pas, il fait nuit noire, il fait moins 20, mec, il faut avancer, sinon on va mourir de froid. »
Mais t'as ça aussi, t'as vraiment cette expérience humaine aussi, ce partage et cette solidarité qu'on n'a pas dans notre quotidien, quoi.
Non, clairement. Clairement. Et il y en a un d'ailleurs parmi nous qui était pas bien, qui à chaque pas vomissait, qui était très lent, on lui a dit de redescendre.
T'as des Sherpas qui sont là s'il faut que tu redescendes
ouais, on avait
toi
un Sherpa pour le sommet, notre guide français. On avait deux Sherpas, pardon.
D'accord.
Deux Sherpas.
Donc il y en a un qui est redescendu.
Il y en a un qui est redescendu avec lui, donc on s'est désencordé. Pendant ce temps-là, t'es statique, ça caille. Bon, il faut le faire, donc c'est hyper important, mais donc ça prend un peu de temps. Et c'est pour ça que nous, on a été plus lent que le fameux gars là, qui s'est fait recoudre, lui a dû mettre 4 heures, là on en a mis 7-8. Mais parce qu'il est tout seul, parce qu'il est ultra sportif, jeune.
35 ans.
Je crois qu'il y en a un qui l'a fait en 3 heures, un Allemand, mais qui avait 27 ans. Enfin, voilà. Mais le tout, c'est de le faire. De toute façon, c'est pas une compète ou une performance. Quoi. Non,
mais ça, c'est le moment difficile quand même de l'expédition.
C'est le moment où t'es dans la vraie haute altitude et dans les conditions les pires de froid, de tout ce que tu veux. Ouais, c'est difficile. Mais voilà, à un moment donné, tu dépasses ça. Il y a le soleil qui se lève sur la chaîne de l'Himalaya. C'est un sommet, en fait.
Tu sais que j'ai des frissons quand même quand tu
Ah ouais.
Mais non, mais je me dis c'est dingo.
Mais c'est là que je suis content de le partager, tu vois.
Mais c'est incroyable.
C'est tout l'intérêt du truc. Et à un moment donné, tu te retrouves avec la lune qui s'efface un peu. T'as l'impression un peu d'être d'ailleurs sur la lune parce que t'as que de la pierre et du blanc. Et puis tout d'un coup, t'as toute la cime. Il faisait vraiment extrêmement beau. On a eu des conditions extraordinaires. Et je vous montrerai la petite vidéo, mais ça s'ouvre vraiment sur la chaîne de l'Himalaya. Et c'est un sommet, le Merapic, où tu as la possibilité de voir jusqu'à 6-8 000. Il y en a 14 dans le monde.
C'est
donc, tu en vois déjà quand même une bonne partie, presque la moitié. Et c'est hyper chouette. Et tu vois notamment l'Everest, le Lhotse, le Shoyu, un autre dont j'oublie tout le temps le nom, très compliqué,
donc,
qui
ça,
était
ça
plus loin.
Ça te rebooste un peu quand même quand tu commences à voir le
tu
paysage,
fais ça pour
le
ça.
Soleil se lève, etc.
Bah, tu fais vraiment ça pour ça. Tu te dis, je ne vais pas monter pour rien, j'en ai pas bavé pour rien. C'est vraiment extrêmement, extrêmement beau. Après, pour autant, ce n'est pas fini. Tu ne vois jamais la fin du truc, surtout que c'est un glacier relativement plat.
D'accord.
Et c'est ce qu'on redoute tous en alpiniste, c'est que en fait, quand ça monte raide, ça monte. Et tu vas vite au sommet. Mais quand ça monte en pente douce... C'est très très long, très 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 long, et tu vois jamais le bout. Et tu te dis.
Et lui donne un peu des infos, ton guide. On en a encore pour une heure ou on a encore.
Ouais, mais par moment t'as pas envie de lui demander parce que tu sais qu'il va dire qu'il y en a pour 2h30 alors que tu t'attends
et tu
à une
plus,
heure.
Quoi. Ouais.
Donc vaut mieux pas demander en fait, parfois. Et puis quand tu demandes, t'as toujours cette déception de dire c'est deux fois plus long que j'avais prévu. J'en peux plus. Et en même temps, c'est génial, t'en peux plus. Mais tu as envie d'y aller et tu sais que tu vas y aller.
Il a dû être dégoûté, celui qui est redescendu.
Alors, non, mais alors lui, il est redescendu, mais comme c'est un compétiteur, hein, il a convaincu le Sherpa de remonter. Et là, je pense qu'il a eu, il n'aurait pas dû, très clairement. Et il est arrivé au pied du sommet, il restait encore 70 mètres à monter. Et comme il y avait beaucoup de vent, le Sherpa était en train d'installer une corde fixe pour qu'on puisse monter en s'accrochant. Mmh. Donc il y avait un temps d'attente, il faisait très beau, il faisait jour, mais ça caillait quand même grave. Et il s'est arrêté là, il n'est pas allé aux 70 mètres au-dessus, mais il était dans un état pas possible. Quoi.
T'as eu peur ?
On a tous eu un peu peur pour lui, parce qu'on s'est dit, il a forcé le truc, c'est quand même un peu dangereux. Le guide français qu'on connaît très bien et qui est très pote avec lui, il dit, là, franchement, t'as déconné, il l'a engueulé. Il a clairement engueulé. Et il l'a payé à la descente, parce qu'à la descente, lui qui était toujours premier, à la fin, on l'attendait parfois 2 heures, 3 heures, très diminué, et il est rentré en service de réanimation en rentrant à Paris.
Ah oui, d'accord.
Ouais, parce qu'il s'est... je sais plus exactement, mais je crois qu'il a eu une acidification du sang, parce que...
Ton corps peut plus.
Plus. Mais on sait jamais comment on réagit. Peut-être j'aurais fait la même chose. T'as envie d'y aller, quoi, tu vois, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Ouais, mais bon, parfois, il faut être un peu raisonnable. Bon, au final, tout est rentré dans l'ordre.
Au bout de 7 heures, t'arrives sur ce pic où il te reste 70 mètres, quoi.
Il reste 70 mètres, alors tu cailles, le mec, il met sa corde.
Tu sais combien il fait de degrés ?
Alors nous, pendant toute la nuit, je pense qu'il faisait moins 20. Il n'y a pas de vent. Pas de vent parce que la partie du glacier était à l'abri. Et arrivé justement sur cette crête sommitale, là, le vent se lève et t'as 40-45 km de vent et t'as un ressenti tout de suite à moins 30, moins 35.
Donc pareil, là, j'imagine que t'as pas de bout de visage qui sort.
Moi, pendant toute la montée, je me suis gelé les pieds, les extrémités des pieds. J'ai mis 3 mois après à retrouver la sensibilité.
T'avais pas les chaufferettes Décathlon dans tes chaussures ? Non,
j'aurais dû. J'aurais dû mettre des chaufferettes. Mais on s'est tous gelé les pieds. Tout le monde a gardé des séquelles pendant un mois ou deux.
Tu vas quand même un peu au bout de ton corps.
Ouais. Mais bon, tu vois, je faisais du... Je l'ai bougé sur place. Ça ne servait plus à rien. À un moment donné, tu ne les sens plus. Tu dis, bon, je sais qu'on va redescendre dans 40 minutes. 40 minutes de plus ou de moins, tant pis, quoi. Ouais, bon, il n'y a pas eu de séquelles. Le truc n'a pas noirci. Enfin, voilà. Mais je n'ai retrouvé la sensibilité que vers le mois de janvier, février.
D'accord.
Et maintenant, quand il fait, j'ai dû cramer des vaisseaux. Quand il fait pas loin de zéro, j'ai froid, quoi.
Ouais.
J'ai froid, ça durcit et bon. Mais
donc là, t'es à 60 mètres.
Là, il reste 60 mètres. Le vent se lève, donc ça caille un peu. T'es couvert, oui, t'as un masque pour le vent. Pour autant, j'ai quand même réussi à filmer, tu vois, tout le sommet. J'avais pas de gants. Mais c'est là que je suis pas très frileux. À part les pieds qu'on gelait, très clairement.
Vraiment, ils bougeaient pas, quoi.
Ouais, et puis je sais pas, c'est des échanges sanguins. À un moment donné, en fait, quand il fait froid et que tu fais de l'effort, ton corps, il va pomper le sang dans les extrémités pour le ramener vers les fonctions vitales, vers ton cerveau, vers... pas médecin, je dis peut-être des conneries, mais il va chercher. C'est pour ça qu'en fait,
t'as froid aux extrémités.
Parce que
pour ça que même quand il fait pas très froid, on dit mets un bonnet et tout de suite ça va mieux.
Tu perds 30% de ta chaleur par la tête, là, paraît-il. Mais ça, bon, j'avais pas forcément froid ailleurs, quoi. C'était quand même supportable. Mais voilà, t'es dans des conditions, t'es à 6004, t'as un soleil radieux, il est 7h du mat, et tu passes de moins 20 à moins 35 ressenti avec ces 40 km de vent. Mais voilà, t'es devant l'Everest, t'as
un cappuccino.
Alors l'eau, tu vois, c'est marrant, mais...
Vous avez pas bu ?
C'est difficile. Parce que t'as des énormes moufles pas pratiques. Notre guide français qui a l'habitude de ça avait dit prenez des petites bouteilles en plastique que vous mettez dans vos poches parce que vous pourrez pas les prendre dans votre sac à dos, vous allez pas vous poser, l'enlever comme on fait d'habitude. Quand il fait beau, quand on a le temps.
Tu fais une petite pause, quoi.
Ah, tu montes. Et on avait des petits trucs dans le... Mais c'est congelé. Alors, tu essaies de le garder au chaud un peu, mais... Non, tu bois pas tant que ça. Entre le départ la veille au high camp, et comme j'étais mal, j'ai rien bouffé, j'ai quasiment pas bu... Tu te fais 12-24 heures, sans rien, quoi. Tu puises l'énergie ailleurs, quoi.
Et donc, les 60 derniers mètres, alors ? Ou les 70 derniers mètres ?
Les 60 derniers mètres, ça allait. Il y avait la corde fixe, puis on s'était un peu posé. Et puis, t'as envie d'y aller, quoi.
C'est quoi ? Il y a un drapeau en haut ?
Il y a ces fameux petits drapeaux népalais de toutes les couleurs, là, vert, jaune, qui ont des connotations religieuses. Donc, il y en a un qui est planté là. Moi, j'avais embarqué un drapeau du cabinet Change dans le sac à dos qu'on a réussi à déplier. Mais alors, il y a le vent, on se prend dans la gueule. La prochaine fois, je prendrai une casquette en fait. C'est un peu con, cette bout de tissu qui part dans tous les sens.
Mais tu ressens quoi, quand t'es arrivé là-haut?
Ah bah t'es hyper heureux parce
tu
que
pleures?
T'es... Non, alors pas forcément, même si on pourrait, hein, dans l'absolu. Moi, il n'y a pas de problème. Je sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un pleurer dans des ascensions, dans les cordées. Non, mais t'es hyper content d'être allé au bout de toi-même et surtout d'avoir ce paysage incroyable. Ouais. Même si tu restes, en réalité, tu restes 7 minutes au sommet.
Que tu redescends
tout de suite. Il fait tellement froid, tu te poses pas, tu te fais pas un casse-croûte ou un machin, comme si t'étais à 3000.
Un selfie.
On a fait une vidéo, un petit selfie, on a quand même tendu les drapeaux, on s'est tous félicités comme toujours, on se fait des grandes accolades, c'est super sympa. Il y a beaucoup d'émotions positives et être content. Et puis tout d'un coup, faut redescendre.
Parce que la descente, c'est un sujet aussi.
C'est pire.
Ouais, c'est ça.
C'est pire.
Non, c'est que t'es arrivé en haut, mais en fait, c'est quand même pas la fin de ton expédition.
Non, c'est le début des emmerdes, en réalité.
Ouais.
Et ça, tu le comprends à force de faire un peu d'alpinisme. Chaque sommet te réapprend que la
c'est
descente...
C'est que la moitié du voyage.
C'est vraiment la merde. Si tu pouvais avoir un parachute, ça serait quand même mieux, quoi. Parce que la descente, c'est quand même physique. Ça tire vachement sur les muscles. T'es fatigué, t'as tout donné, t'as obtenu ce que t'as voulu. Donc, tu commences à lâcher aussi un peu prise.
Bien sûr, t'as plus cette motivation, ce truc qui te tenait le ventre.
Et descendre avec des crampons, même si là, en l'occurrence, c'est pas pentu, les crampons, l'idée, c'est de mettre toute la surface des crampons dedans. Donc, tu descends un peu comme un
accroupi. Ce qui n'est pas naturel dans notre descente.
Non, t'es un peu accroupi, t'es pour bien enfoncer et t'as le pied dans la pente.
D'accord.
Alors, naturellement, tu mettrais plutôt le talon.
Oui.
Mais ça, c'est une connerie, parce que tu risques de pas cramponner assez et donc de partir. Donc, tu descends...
Tu descends par le même chemin?
Tu descends, ouais, c'est un aller-retour.
Donc, tu remets 6 heures.
Tu vas plus vite à la descente. Puis, il fait un peu plus chaud. Pour le coup, se poser au milieu pour boire un coup, pour rebouffer, t'as le temps.
Alors, pourquoi on part à 2 heures du matin? Pourquoi on monte la nuit?
Alors, pourquoi on monte la nuit? Là-dessus, j'avoue que je n'ai pas regardé, je ne sais pas, mais je pense que c'est lié au vent qui se lève systématiquement, passé une certaine heure. Et ce que j'ai observé, c'est vraiment hyper empirique, c'est que chaque après-midi, c'était couvert.
OK.
Donc, c'est un sommet du matin, globalement. Et je pense que c'est pour ça. J'avoue que je n'ai pas réfléchi au truc. C'est vraiment
mais
le
c'est vrai que même
truc
souvent
empirique.
Dans les films, quand j'ai vu, on lève toujours les mecs au milieu de la nuit pour monter. Ouais. Alors, et là, quand tu dis finalement la descente, il y a une météo qui est plus agréable, etc.
Après, dans les Alpes, la plupart des trucs, c'est on part tôt la nuit pour arriver tôt parce que le temps est très changeant dans la journée.
D'accord.
La nuit
alors
est quand
que le
même
matin,
plus...
c'est un peu plus sûr.
Bah, t'as pas de thermique, t'as pas le soleil qui vient chauffer la terre, donc
d'accord.
T'as pas de nuages qui se créent. Il y a peut-être des spécialistes qui m'entendront.
Non, mais tu peux raconter ce que t'as ressenti aussi, ce que t'as vu.
C'est ma vision empirique du truc. Et on évite de. C'est pour éviter de changer. Puis pour avoir aussi les bonnes conditions de froid, de neige, de glace.
Ouais.
C'est quand même mieux la nuit quand c'est un peu.
Froid, quoi.
Un peu froid, un peu posé, ouais, très clairement.
Donc tu redescends, t'arrives au camp.
Tu retournes au camp de base. Ouais, mais j'ai encore eu du mal un peu à bouffer, mais j'ai
mais t'es content de te poser avec tes copains et de débriefer un peu de ce que vous avez vécu et de...
Ouais, carrément. Donc on repasse au camp de base, on se refout dans la tente, on se repose quand même. On se rendort pas forcément, mais on se repose un peu.
Tu repasses une nuit.
Après, il faut encore redescendre.
Non.
Ensuite, on enchaîne pour redescendre à nouveau à 5000.
D'accord.
Dans le lodge, où là, on dort, évidemment. Mais là, tu refais la descente dans sa globalité.
C'est juste une pause.
C'est juste une pause. On est resté 2 heures, je crois, un truc comme ça.
Okay.
Et puis, il y a les autres cordées qui arrivent. Et au sommet, il y a eu les jeunes qui ont grimpé en 2 minutes. Donc, ils étaient bien avant nous là-haut. Et c'est tout. On était un peu la seule cordée. Au sommet, on était tout seul.
C'est magnifique.
Tout seul. Il n'y avait personne. On est peut-être parce qu'on est arrivé un peu plus tard, mais il y a eu des 3-4 cordées avant.
Au camp de base, justement, quand tu es à ce camp avec les tentes, tu as rencontré un peu d'autres gens, tu as discuté.
Oui, mais tu les as vus avant. Tu les as vus avant.
D'accord, parce oui, donc c'est des gens que tu croises tout le long de ton voyage. Quoi.
Et il y a parfois 24 heures de décalage entre eux, se font leur journée de pause avant ou après. Donc par moment, t'en perds, puis t'en retrouves d'autres. Mais on se suit, quoi, globalement. Mais encore une fois, c'est un itinéraire qui n'est pas extrêmement prisé.
Pourquoi vous avez choisi celui-ci, d'ailleurs ?
Bah parce qu'on aime tous ce côté un peu sauvage, tranquille. Quoi. Oui. Eux, ils avaient tous fait... Enfin, la plupart, je disais, avaient fait le camp de base de l'Everest. Ah, ils disaient que ça n'avait mais rien à voir. Le camp de base de l'Everest, c'était l'autoroute, c'était une vallée, apparemment, ce que j'ai entendu, hein, de ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient, qui était beaucoup moins sauvage. Et puis, en fait, le camp de base de l'Everest, si j'ai bien compris, tu arrives sur une sorte de tas de cailloux. Tu ne vois pas vraiment l'Everest parce qu'il est trop à pic.
Alors que toi, joli. Finalement, t'en as profité de voilà. du spectacle.
Et nous, on a profité du spectacle tout le temps et on le voit tout le temps. L'avantage du camp de base, c'est que tu peux aller au Gokyo Peak, si je ne dis pas de bêtises.
Qui est un autre sommet.
Oui, ou au Gokyo Lake. Et apparemment, c'est magnifique. Donc ça, c'est pour ça que les gens le font aussi. Mais tout le monde, de ce que j'ai perçu et entendu, tout le monde a préféré ça. Plus sauvage, plus vraie montagne. Et puis, t'as, bon, évidemment, tu vas plus haut que le camp de base, qui est à 5007-8, je ne sais plus. Ou 5004, pareil, j'ai les chiffres. Et là, à 6000, bon, c'était encore une autre aventure. Quoi.
Et donc et là, tu mets combien de temps à redescendre? Alors, tu descends au lodge, tu dors, là, j'imagine.
Au lodge, on a dû arriver vers 16-17 heures. Et là, tu as repris de l'énergie, parce qu'on s'est posé au high camp, on s'est reposé, et puis tu as fini, là, pour le coup, tu as fini les difficultés.
Ouais.
Et puis tu as déjà fait le chemin une fois ou deux, parce qu'on était monté pour voir avant le high camp, on était redescendu pour s'acclimater. Donc, le truc, tu connais, donc tu finis par prendre pour un cabri et à descendre à fond la caisse et puis te dire vivement la bière, quoi.
Parce que, on rentre.
Ouais. Et quand tu te poses, tu te dis, bon, à la haute altitude, c'est quand même hyper dur.
Mais c'est pas fait pour l'homme, en fait.
Non, non, dans l'absolu, non. Bah, passer, je sais plus quelle altitude, je crois que c'est 7008, t'es dans la zone, ce qu'on appelle la zone de la mort. C'est-à-dire que ton corps n'est qu'en survie. Donc, tous ceux qui font l'Everest ou des trucs au-dessus de 8000, leurs heures sont comptées.
Quand ils sont là-bas.
Quand ils sont là-haut. C'est pour ça que aussi les fenêtres météo sont super importantes et qu'il faut prendre les bonnes. Si tu restes trop longtemps, ton corps, en fait, ne se régénère pas et au contraire, dégénère, quoi. Je ne sais plus dans quelle mesure et pourquoi, mais physiologiquement, tu n'es qu'en survie.
Tu vas le faire, assez... toi ?
Je ne sais pas, parce que pour le coup, il y a beaucoup de dangers objectifs, d'avalanches. Et puis alors, c'est 2-3 mois. C'est pas 3 semaines.
2-3 mois ?
C'est 2-3 mois, ouais. Ouais, parce qu'il faut, monter, il faut s'acclimater, il faut passer des étapes compliquées. Il faut avoir les bonnes fenêtres météo qui sont très rares. Donc il faut les attendre.
On
passe son temps. J'ai des gens qui m'avaient raconté, ils se faisaient chier, en fait. Et c'est toute une autre aventure. Et puis c'est un budget, t'es dans les 60-70 000 balles.
Peux nous dire comment ça t'a coûté le Merapic à peu près ?
Ouais, avec le voyage et les 3 semaines tout compris, ça a coûté 6 000 euros. C'est pas très cher.
C'est moins cher que le Club Med, non ?
Bah ouais, non, mais clairement. C'est pour ça,
pour
c'était
une aventure
super
extraordinaire pendant 3 semaines, enfin, ça vaut vraiment le coup, quoi.
Clairement, avec les petites dépenses sur place de lodge, mais qui
c'est rien du tout,
1000 balles en
et
plus.
Et donc
quoi.
Tu mets combien de temps à descendre après ?
Tu mets 7-8 jours.
D'accord.
Et pour le coup, alors, on n'a pas fait le truc en aller-retour. On a rejoint la vallée plus touristique ensuite. Et alors là, tu repasses dans d'autres paysages où tu redescends à 4000, voire même 3005, je crois. Tu remontes à 4007. Donc le voyage n'est pas fini. Hein. Tu continues à faire de la montagne, à passer...
T'en as pas marre, toi ? T'as pas envie de rentrer ?
Non, j'étais même à un moment donné, je ne sais pas si c'est les globules rouges ou le truc, ça m'a galvanisé. Il y a un moment donné, je suis arrivé 2 heures avant tout le monde.
En super forme.
J'ai suivi, j'étais hyper content d'être là, en fait. Heureux d'avoir accompli un truc. Et j'ai physiquement, au
c'était
top.
Bien.
Alors que c'était une des parties les plus difficiles. Tu vois, bizarre, mais c'est les ressorts physiques, hein, c'est assez étrange. Et on était dans un univers un peu, à un moment donné, brumeux, avec des paysages type, dans mon imaginaire, j'ai jamais foutu les pieds, mais Écosse. Tu vois, t'as l'impression d'avoir de la tourbe, c'était roux, caillouteux, enfin c'était vraiment incroyable. Encore un autre décor. Et après, tu passes ça et tu redescends vers la vallée et tu arrives à Lukla. Lukla qui est la piste d'atterrissage la plus dangereuse du monde. Moi qui me fascinait depuis des années, ces trucs un peu du montagnard, pour le coup, tu as envie de passer à Lucla, quoi. Et cette ville où tu te balades au milieu des yaks, des ânes, et pareil, on s'est posé avant de reprendre. On devait prendre un avion. L'avion, en fait, ne pouvait pas aller jusqu'à Katmandou, pareil, pour des questions d'espace aérien fermé. Et donc, il fallait. On aurait atterri ailleurs et reprendre une jeep pendant plusieurs heures pour rejoindre Katmandou. Ce qui, dans l'absolu, moi, c'est l'aventure qui continue, tu vois. 10 heures de jeep, pas hyper confortable, ouais. Mais c'est sympa.
Quand t'as cool. Marché pendant 3 semaines, je pense que finalement, la jeep, c'est pas...
Et puis, on s'est tous regardés. Les gars ont dit, il y a un hélico dispo, c'est 200 balles par tête. On a dit, OK, allez, hop, on y va.
Et donc, ça, c'est pas un danger objectif, l'hélico à Lucla?
Si, c'est la seule fois, d'ailleurs...
Moi, je monte pas dans l'hélico.
L'hélico, c'est...
T'y as pensé, quand même?
C'est la seule fois où j'y ai pensé dans ce voyage. J'en ai déjà fait de l'hélico, mais je sais que c'est dangereux. Et c'est le seul moment où Adèle m'a envoyé un texto en disant « Oui, tu me préviendras quand tu arrives. » Le seul truc où j'ai senti de l'angoisse. Ouais, parce qu'on connaît tous des histoires d'hélicos qui sont crachés, que ce soit public type Kobe Bryant ou même des gens qu'on connaît plus ou moins
proches. Dans les montagnes, carrément. Ouais.
Oui, mais en réalité, statistiquement, il n'y a pas non plus 500 000. Et pour le coup, c'est un avion qui s'est crashé et pas...
Donc l'hélico est emmené à Katmandou.
Ouais, t'as 3 quarts d'heure à peu près depuis Lucla, 50 minutes. Et pareil, tu resurvoles toutes les vallées, t'as la chaîne de l'Himalaya à droite. C'est sublime. Et puis tu démarres de cet aéroport mythique à flanc de falaise en réalité. Quand les avions atterrissent, en fait, ils foncent sur une falaise. Ils redressent à la fin le nez et ils atterrissent en pente montante. Et ils ont une piste qui est très courte.
Sur YouTube.
Ouais, je te montrerai après, j'en ai. Mais c'est incroyable. Il y a un balai. Moi, j'étais très étonné. Je pensais que c'était un petit aéroport, mais c'est un avion qui atterrit, 2 hélicos qui démarrent, un avion qui décolle.
Mais que pour des gens qui font des expéditions.
Ouais. Ah ouais. C'est la plaque tournante en fait de tout le coin. Et t'as que des mecs avec des sacs North Face, hyper lookés, alpinistes.
Et des filles, t'as rencontré un peu des filles?
Ouais, il y en a quelques-unes. Alors il y en avait une avec nous. Dans les autres cordées, il y avait quelques femmes. Il y en a, mais il y en a moins.
Il y en a très peu.
Mais il y en a quelques-unes, ouais, carrément. Il n'y en avait pas de seules, je crois, pas de cordées seules. Il y avait des familles aussi. Il y avait des Australiens ou des Néo-Zélandais avec un enfant de 11 ans qui allait faire le sommet.
Alors là, tu l'aurais fait avec ton fils, toi?
Non, enfin, c'est un trek. C'est classé comme le plus haut trek du monde. Il n'y a pas de danger objectif. Si, s'il a envie d'y aller, on peut tenter. Mais je crois que physiologiquement, à cet âge-là, c'est ce qu'avaient l'air de dire les médecins avec qui j'étais et le guide. Ils disaient, c'est pas super pour les échanges cardiaques, les machins, c'est trop haut. Donc, j'aurais pas pris ce risque objectif, pour le coup.
Mais ça t'a donné envie de faire peut-être une autre aventure avec lui, peut-être moins dangereuse.
Oui, carrément. Mais c'est un truc que tu peux partager avec quelqu'un qui aime la montagne et qui a envie de monter. Hein. C'est pas un... Et puis, s'il s'arrête en cours de route, il y avait une cordée de Belges flamands qui nous suivaient, ils étaient une dizaine. Il y avait des retraités, il y avait plusieurs femmes, une qui avait 65 ans, qui était assez sympa d'ailleurs. Tu discutes avec tous ces gens parce que tu les croises tout le temps. Et elle n'est pas allée au sommet. Son mari a réussi, mais elle a dû redescendre parce qu'elle n'était pas bien. Mais pour autant, elle est allée au Y Camp, elle a vu l'Everest.
Tu as quand même vécu un moment extraordinaire avec
les
gens.
Bien sûr. Il y en a un plus vieux qui n'a pas réussi. Tu croises des gars, tu te dis, mais il va mourir. Le mec est prostré dans le lodge, qui ne peut plus avancer et qui continue quand même.
Mais ce qui est dingue, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même tout ça, mais il n'y a pas de médecin. Toi, tu as eu la chance, tu as voyagé avec des médecins, mais il n'y en a pas.
Non, mais il y a quand même... s'il y a une emmerde, tu peux quand même descendre en hélico. Les hélicos se posent un peu partout.
Ton coéquipier, il est descendu en hélico? Celui qui n'était pas bien? Non, il est descendu avec vous.
On a tout fait à pied jusqu'au bout, et c'est qu'après qu'il est reparti en réanimation à Paris, quoi. Mais il a été jusqu'au bout. Il a tenu en étant plus lent, en mangeant pas beaucoup, en n'étant pas bien, quoi. Mais toujours en faisant bonne figure, en disant je continue, j'avance.
C'est dingue. Ouais. Et donc, Katmandou, tu prends ton avion et tu as pensé direct à ta prochaine expédition ou pas?
Non, alors, en redescendant au dernier lodge à 5000, j'ai dit, putain, c'est hyper compliqué. J'ai quand même été mal, tu vois. Je suis très optimiste, très positif. J'ai adoré le truc. Mais tu te poses, putain, la haute altitude, c'est quand même tout un truc. C'est hyper difficile, quoi. Et je suis pas sûr d'y retourner. Et puis,
moi, je suis sûr que tu vas y
retourner. Au dîner, t'as un japonais qui a 73 ans, Japonais en plus, hyper stylé. Voilà, t'as envie d'acheter toutes les fringues d'alpiniste qu'il a parce que le mec a un look. Et tu parles avec lui, tu dis ah ouais, j'ai fait l'Everest, là je fais un 7000. Le mec a 73 ans, il n'arrête pas et tu te dis bon, bah, je repartirai ouais, un jour. Il y a la Aconcagua que j'ai en tête parce que c'est encore un truc entre guillemets facile. C'est le plus haut sommet d'Amérique latine en Argentine et il fait 6009.
D'accord.
Et pareil, c'est des budgets raisonnables, c'est 3-4.
Et c'est une autre ambiance en plus, c'est 3-4 semaines,
c'est un autre continent, c'est une autre ambiance, exactement. Et les 8000, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un autre budget, un autre temps.
Et puis c'est 3 mois, c'est pas la même chose quand t'as une famille en boulot quand même.
Si tu peux faire ça plus tard, le budget que je donne, c'est le budget du touriste qui peut pas tout faire par ses propres moyens, qui a besoin d'une expé, donc c'est plus cher. Hein. Je pense qu'il y a des mecs qui peuvent arriver à faire ça.
Oui, mais t'as quand même besoin d'une expé quand on est.
T'as besoin d'une expé, t'as besoin de payer des permis, il y a les voyages, il y a le temps sur place, il y a la bouffe. Enfin, donc c'est quoi qu'il arrive très cher, même pour quelqu'un qui est un peu en autonomie.
Et quand t'es rentré en France, t'es allé voir un médecin pour faire un petit check justement ?
Non, même mes pieds qui étaient gelés, que je chantais pas, on m'avait dit bon, c'est pas très grave. J'avais un peu interrogé les chirurgiens sur les 2-3 trucs. Non, pas
c'est
du tout.
C'est cool quoi.
Ouais. Non, mais il y a pas besoin. Il y avait pas. Tu vois. Pas de truc, ça aurait peut-être fait avancer la science de voir comment un mec retourne. Je crois que les deux chirurgiens, il y en a un des deux qui s'était inscrit dans un truc de médecine du sport hein, et qui se faisait checker avant et après pour aider les médecins
du sport.
Et ton
copain,
sport,
il va comment d'ailleurs ?
Ouais, il va bien. Ça y est, ouais. Il a repris. Je sais pas s'il est pas un peu échaudé sur la montagne là.
On sait pas si lui il repartira.
On verra.
Moi, je suis sûr.
On verra, mais je pense que si, il y reviendra. Ouais, j'espère, en tout cas. Ouais. Mais oui, non, je l'avais revu de manière. Alors, c'est quelqu'un d'assez pudique sur ces trucs-là et il aime pas trop l'échec, donc il n'en parle pas trop. Il dit ouais, tout va bien, c'est reparti dans l'ordre.
Non, mais ce qui est dingue, c'est que c'est l'échec de ton corps. En fait, c'est pas toi qui as refusé d'y aller, c'est qu'à un moment, ce que tu dis, c'est que.
Mais il y allait.
Pour le coup,
en fait,
s'il n'y a pas de justice.
Il a carrément pas mal souffert derrière, mais il a réussi, moi, pour moi. Il est allé, même s'il n'a pas fait les 60 derniers mètres, il a vu le truc, il était là où il voulait être. Donc c'est déjà une réussite en soi, je trouve.
Bon, bah, merci, c'est trop bien. Voilà. Je viens avec toi la prochaine fois.
Avec plaisir.
C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite. Merci et à bientôt.